Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Bonjour et bienvenue dans ce journal du 6 janvier 2016 à les titres. Vers la rupture entre Alégresse et la Femafoto, alors que de nombreux médias l'annoncent bientôt au Cameroun pour coacher les Lions Indomptables. Le sélectionneur des Aigles du Mali a réclamé dans une lettre au président de la fédération un arriéré de 3 mois de salaire ainsi que le remboursement de certains frais. La fédération malienne de football ne confirme pas cette information et dément l'existence de salaires impayés. Selon la Femafoto, le salaire du sélectionneur a toujours été payé. Nouvelle expulsion de Maliens du Gabon. 186 d'entre eux ont regagné avant-hier Bamako. Ils sont accusés d'être en situation irrégulière. Ces expulsés dénoncent des maltraitances de la police gabonaise. Révision de la loi électorale. Des organisations depuis au processus électoral dénoncent leur mise en écart. Elles disent craindre une loi électorale taillée sur mesure, ne prenant pas en compte les vraies aspirations des électeurs. Fatma Tatogola pour la présentation. Alain Giresse s'est la Femafoto vers la rupture. Le sélectionneur des Aigles du Mali a réclamé dans une lettre au président de la fédération un arriéré de 3 mois de salaire ainsi que le remboursement de certains frais. Ce différend pourrait se traduire par un départ prochain du sélectionneur annoncé pour coacher l'équipe camerounaise. C'est Kouka Djougo pour le compte-rendu.
Selon plusieurs sources, le technicien français aurait demandé, en plus de ses 3 mois d'arriéré, le paiement de ses indemnités de téléphone ainsi que d'autres frais professionnels. Il aurait même donné un délai d'un mois au bureau fédéral pour régulariser cette situation. Depuis quelques jours, le nom de l'entraîneur des Aigles est cité pour devenir le futur sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun. Il figurerait avec son compatriote Claude Leroy sur la shortlist de la Fédération camerounaise de football. Toutefois, Alain Giresse n'a fait aucun commentaire sur un éventuel départ. Ces informations donnant le sélectionneur des Aigles dans les starting blocks interviennent dans un contexte dominé par la crise que traverse l'actuel comité exécutif de la fédération contesté par des clubs de première division. Arrivé en 2015 pour reprendre les commandes de la sélection nationale, Alain Giresse n'en est pas à sa première expérience au Mali. Entre 2010 et 2012, il avait coaché les Aigles et avait permis à la bande à Seydou Keïta de se hisser sur le podium de la Coupe d'Afrique des Nations 40 ans après.
Certains médias confirment le prochain départ de l'entraîneur national au Cameroun étant retenu sur sa liste. La fédération malienne, elle, ne donne aucune confirmation. Toutefois, la Femafoto demande l'existence de salaires impayés et précise que le salaire du sélectionneur a toujours été payé par trimestre. Modibo Nama, membre de la Femafoto, a été rejoint par Ousmane Diko.
Il est difficile quand même de se prononcer sur cette situation puisque Giresse n'a pas dit officiellement à la fédération malienne ou aux autorités sportives maliennes qu'il veut aller. C'est à travers les médias que nous avons entendu que le Cameroun serait intéressé par Giresse. C'est ce qu'ils ont dit. La shortlist aussi, c'est le nom de Giresse qui figurait avec Claude Leroy. Claude Leroy n'étant pas aussi partant que ça, je pense que Giresse est vraiment pressenti pour ça. L'entraîneur est payé par trimestre. C'est aujourd'hui, logiquement, qu'il devait se plaindre parce qu'on est au 5 janvier. La procédure a été engagée. Et il restait seulement qu'il perçoive ça sur son compte. Mais Giresse ne s'est pas prononcé là-dessus. J'ai demandé au responsable de la fédération. Il dit non. Giresse même avait dit que non, qu'on a mis son nom sur la liste. Mais je pense sincèrement que Giresse est beaucoup plus proche du Cameroun maintenant.
Pour l'instant, Alain Giresse a démenti vouloir partir au Cameroun. Il affirme être toujours en contrat avec le Mali. Réagissez à toutes ces informations sur la page Facebook, le compte Twitter du studio Tamani.
Tamani.
186 Maliens expulsés du Gabon sont arrivés ce lundi au Mali. Accusés d'être en situation irrégulière, ces expulsés disent avoir été victimes de maltraitance de la part des forces de sécurité gabonaises. À leur arrivée, ils ont été logés à la direction des sapeurs-pompiers de Sogonico, où les autorités assurent leur prise en charge. Mohamedou Touré pour le compte-rendu.
Ces expulsés sont arrivés après être passés au Nigeria et au Bénin. Selon un responsable du centre d'accueil où ils sont logés, la plupart sont arrivés complètement démunis, sans rien d'autre que ce qu'ils portent sur le dos, sans affaires ni argent. Ces Maliens en défaut de carte de séjour ont dénoncé des maltraitances infligées par la police gabonaise. On nous a traités comme des malfrats, se désole l'un d'entre eux. Il estime que certains ont même été arrêtés sur le lieu de travail, d'autres au marché ou même sur le chemin de la mosquée avant d'être expulsés de force. Selon eux, les autorités maliennes au Gabon ne les ont pas assistés et les ont laissés livrer à eux-mêmes. Ces Maliens qui se plaignent des conditions d'hébergement du centre demandent aujourd'hui au gouvernement de prendre des dispositions pour qu'ils puissent regagner leur famille et être réinsérés. En juin dernier, plusieurs autres centaines de Maliens en situation irrégulière avaient déjà été expulsés du Gabon.
Une commission chargée de la révision de la loi électorale a été créée depuis le 25 novembre dernier. Elle vient de livrer ses premières conclusions. De leur côté, les organisations d'appui au processus électoral regrettent que cette commission soit exclusivement constituée de partis politiques. Elle crée en effet une loi électorale taillée sur mesure, ne prenant pas en compte les vraies aspirations des électeurs. Pour autant, ces organisations attendent beaucoup de cette commission pour corriger les insuffisances de la loi électorale actuelle. Draman Diarra est le directeur et le président du réseau d'appui au processus électoral au Mali. Il est joint par Issa Fakaba Sissoko.
Moi, je regrette le fait que cette commission soit exclusivement composée des politiques. Ce qui est attendu par rapport à cette commission, et précisément, c'est d'abord par rapport au temps de la campagne électorale. Notamment en cas de deuxième tour, on a vu qu'il y a toujours des problèmes, puisque les proclamations tiennent, laissent peu de place à la campagne électorale pour le deuxième tour. Ça, c'est un élément qui doit nécessairement être pris en compte. Il y a également la pré-campagne qui n'est pas prise en compte dans la loi électorale actuelle. Il faut que l'on puisse réglementer par rapport à la période de pré-campagne. Il y a le cas du financement des partis politiques et la loi existante n'est pas apparemment appliquée à ce niveau-là. Les dons, les libéralités, les subventions et autres ne doivent pas dépasser les 50% des revenus propres des partis politiques. Or, on ne sait même pas d'ordinaire quelles sont ces ressources propres de ces partis politiques-là. Donc, cela aussi est extrêmement important. Ensuite, le financement même de la campagne lors de l'élection, par exemple, du président de la République. Parce qu'à ce niveau, ce n'est pas le parti qui est l'élément déterminant. C'est le candidat individu qui est déterminant. Et la loi ne parle pas du financement de la campagne de ce candidat-là. Il faut qu'on y prévoie quelque chose.
À Mopti, la menace du Front de libération du Massina se fait de plus en plus sentir dans la région. La population des cercles de Ténéngou et de Djéné affirme recevoir des menaces venant du groupe du prédicateur Amadou Koufa. Les autorités régionales appellent au calme et invitent à ne pas céder à la panique. Omar Batili est maire de la commune de Mopti. Il est joint au téléphone par Barke Sissé.
Nous entendons ça et là, les communes environnantes, qu'il y a ce mouvement de libération du Massina qui perturbe le sommeil et la quiétude des populations de façon répétée. Il y a des échos quand même qui parviennent, surtout vers le cercle de Ténéngou, vers le cercle de Tijiné aussi.
Est-ce qu'aujourd'hui ces menaces pourront impacter la collaboration entre la population et les forces de sécurité?
Je pense que ces menaces sont réelles. Avec l'effort qui est fourni au niveau de l'information et de la communication, je pense qu'il y a une bonne collaboration. Nous invitons surtout les populations à vraiment coopérer. Maintenant, l'information qu'il faut donner tout le temps n'est pas sur la fille pour vraiment vivre cette situation de plus cause. Parce que vous savez, dans une situation de crise, il y a la réalité qui est là, mais il y a l'effet de plus cause aussi qu'il faut combattre. Et ça, c'est extrêmement important.
Une semaine après l'attaque du poste de la CEMA à Talandag par un sardine dans la région de Kidal, un calme relatif règne dans la localité. Des réunions se sont multipliées, des responsables de groupes armés ont même envisagé une riposte militaire. Selon des sources locales, malgré la crainte d'éventuelles attaques, la population vague quand même à ses occupations. Écoutons le témoignage d'un habitant de Kidal joué au téléphone par Intala Akbilal.
La situation est tendue, en plus que les MNL ne contrôlent plus Talandag, les troupes qui étaient stationnés là-bas ont été chassés par les djihadistes et sont retournés ici à Kidal. Et depuis ce temps aussi, il n'y a aucune riposte de la part de la CEMA. Donc, des mouvements djihadistes aussi ont été signalés à une soixantaine de kilomètres de Kidal il y a quelques jours. Il paraît que Talandak est sous leur contrôle, même s'ils ne sont pas très, très visibles, mais ils y sont quand même. Il y a eu des roquettes qui sont tombées sur Adelhoc il y a 4 nuits. Donc, dans l'ensemble, c'est un peu tendu et on ne voit pas aucune action qui puisse enrayer cette spirale. Qui est sûr, il n'y a pas eu de riposte de la part des Balkans. On ne sait pas s'ils sont en train de recouper des renseignements pour frapper plus fort.
La radio Taanit de Tombouctou a commencé à émettre à nouveau près de 3 semaines après le meurtre du directeur de programme Joël Diko. Selon le régisseur de la radio, les travailleurs sont toujours sous le choc mais déterminés à reprendre le travail. Un programme allégé de 3 heures d'émission a été diffusé hier entre 15h et 18h.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
À présent, les échos de nos régions. Deux pinasses sont entrées en collision hier matin sur le fleuve Niger à Gao. L'incident s'est produit aux environs de 8 heures. Aucun bilan n'était disponible jusqu'à hier dans la soirée. Toutefois, selon des sources locales, des éléments de la protection civile ainsi qu'une équipe de l'aménagement à Gao se sont rendus sur les lieux pour porter secours aux victimes. On ignore leur nombre pour l'instant. La femme du village de Gengwa bénéficie depuis hier d'une maternité rurale dans la commune de Madina Sako, cercle de Banamba. Les travaux se sont élevés à 7 millions de francs CFA. Cette maternité rurale, qui comprend une salle de soins, une salle d'accouchement, un magasin et deux latrines modernes, a été financée par l'Agence nationale des investissements des collectivités territoriales. Une journée culturelle interscolaire a été organisée lundi à Diré. Plus de 7 écoles étaient concernées. Le thème choisi était la culture de la paix. Cette participation des enfants à la coalition de la paix s'est manifestée selon le préfet adjoint à travers des textes de poésie et des sketchs. L'initiative est du ministère de l'Éducation en collaboration avec l'administration scolaire locale soutenue par l'UNICEF. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie dans un instant, le magazine.